Prologue. Ce premier tome, et toute la série qui comporte jusqu'à présent 21 tomes en anglais en édition simple et limitée, présente un matériel auparavant inédit provenant des archives des manuscrits et lettres d'Ellen White. Ce matériel a été publié et employé de différentes manières, comme par exemple dans des sermons, des travaux de recherche d'étudiants en théologie, des thèses de doctorat et dans la publication d'éditoriaux de revues. Étant donné la diffusion maintenant plus large de cet ouvrage, le lecteur pourra connaître les antécédents historiques concernant les ressources du White Estate, patrimoine White, et les normes régissant leur accès. Au décès d'Ellen White, en 1915, les archives des manuscrits et des lettres du coffre-fort d'Elmshaven contenaient 40 000 pages de documents qu'elle avait dactylographiés. Ellen White et ses employés utilisaient ces archives, avec leurs fiches de 10 sur 15 cm, pour le travail de routine, ainsi que pour la préparation d'articles et de livres. Selon ses propres déclarations à la fin de sa vie et selon ses dernières volontés pour établir le Ellen G. White Estate, patrimoine d'Ellen G. White, plus connu comme le White Estate, patrimoine White, on comprit que ces archives resteraient utiles avec le temps, en particulier afin que le White Estate puisse continuer à accomplir sa mission. Comme dans les premiers tomes, le matériel actuellement disponible dans les autres publications n'a pas été inclus dans celui-ci. Dans quelques cas, aucun numéro de parution n'a été attribué à certains matériels pris en considération et assignés, et ces derniers n'ont pas non plus été réaffectés. Jusqu'en 1983, seuls les extraits destinés à un usage public sont parus. À commencer par le manuscrit inédit numéro 970, dans lequel le patrimoine White a « fait paraître » le plus de lettres et de manuscrits entiers possibles, même si seuls quelques paragraphes particuliers avaient été demandés. Après que les archives du patrimoine White furent emmenées à Washington, en 1938, on les ajouta aux documents supplémentaires de la plume d'Ellen White, qui étaient jusqu'alors restés manuscrits et qui n'avaient pas été dactylographiés. Il s'agissait surtout d'un matériel à caractère biographique, sous forme de notes dans des agendas, des journaux et des lettres aux membres de sa famille. Bien qu'on appelle souvent la collection complète de manuscrits et de lettres « le dossier des manuscrits », le matériel se divise en deux sections. Les manuscrits d'Ellen White, les lettres d'Ellen White. La section « Lettres » contient des missives d'Ellen White adressées soit au président de la conférence générale, soit aux membres d'église ou à ses enfants. Ces courriers sont remplis d'instructions et de conseils concernant la direction de l'œuvre de l'église, de normes à appliquer, d'expériences de personnes impliquées dans le travail de l'église, avec parfois des mots de correction et de réprimande, d'instructions aux responsables d'institutions et de l'évangélisation, de témoignages personnels, souvent confidentiels par essence, traitant peut-être de sujets propres à la personne concernée et à Dieu uniquement, ainsi que de lettres donnant des nouvelles à la famille. Le sacré et le profane. Tout le matériel de ces lettres était-il inspiré? L'espace imparti empêche une réponse exhaustive, mais Ellen White, ses employés, ainsi que nos ouvriers, ont tracé une ligne entre le sacré et le profane. Il n'est pas difficile d'appliquer ce principe, surtout quand on sait qu'Ellen White évitait de donner l'impression que ses idées personnelles dans ses écrits étaient des conseils inspirés du Seigneur. À une occasion, elle écrivit « Il y a cependant des moments où il faut parler de choses ordinaires, parce que des choses ordinaires occupent l'esprit. Alors des lettres ordinaires doivent être écrites, contenant des renseignements qui ont passé d'un ouvrier à l'autre. Et que, c'est une grave erreur de mêler le sacré et le profane. Message choisi, volume 1, chapitre 2, pages 44-43. Le processus de publication. Après la mort d'Ellen White, les responsables se rendirent compte de plus en plus du potentiel et de l'utilité des manuscrits inédits. Ils élaborèrent des plans pour donner l'accès à ces manuscrits de manière organisée et pour les mettre à la disposition du public intéressé. Les dépositaires du patrimoine White et les dirigeants de la conférence générale décidèrent d'établir des normes pour la publication de tout le matériel nouvellement paru d'Ellen White. Ils s'aperçurent que, si une déclaration était utile à une personne, elle pouvait aussi l'être à d'autres. Le matériel délicat, surtout les témoignages personnels, devrait être traité afin de protéger les personnes et leurs descendants. Ces politiques et directives régissent encore ceux qui effectuent des recherches dans les dossiers des manuscrits d'Ellen White. La collection d'Ellen White ne constitue pas des archives publiques. Elle est destinée à l'usage des dépositaires et des dirigeants du siège de l'organisation, Cependant, des permis de recherche sont accordés aux candidats au doctorat ayant les crédits requis, aux pasteurs et autres personnes autorisées par le comité des dépositaires. Les demandes d'accès à un document particulier sont d'abord considérées par le Conseil des dépositaires du patrimoine White, puis par le Comité de l'Esprit de Prophétie, nommé par la Conférence Générale, qui est une commission composée des dépositaires White et des dirigeants de l'Église. Ceux-ci permettent aux dépositaires et aux dirigeants de travailler en accord et de prendre la responsabilité mutuelle au moment de la publication de matériel d'Ellen White encore non publié. Il avait au départ été prévu que tout document publié par le patrimoine White, que ce soit de la plume d'Ellen White ou préparé par son personnel, passe par le processus de publication. Mais on abandonna bientôt l'idée. À mesure que le travail avançait, on décida de numéroter les documents faisant partie du matériel alors encore non publié. Mais ce plan ne fut pas appliqué avant que le travail n'ait déjà avancé depuis une décennie. Ainsi, quand le secrétaire du Conseil commença à numéroter le matériel déclassé, il estima que 18 documents avaient été publiés jusqu'alors et attribua au premier élément le numéro 19. Il espérait remonter en arrière et numéroter tous les documents déjà parus, mais ce désir ne se réalisa jamais. Les 18 premiers numéros manquants couvraient plusieurs documents et certains parmi eux n'étaient pas des manuscrits d'Ellen White. Ce que contient ce tome. La plupart du matériel paru depuis les années 1930 jusqu'à présent a été publié dans des compilations comme « Évangéliser »,« Le foyer chrétien »,« Child Guidance »,« Orientation de l'enfant »,« Conseils sur la nutrition et les aliments », les trois volumes de « Selected Message »,« Message choisi », deux volumes en français, les 10 volumes des « Morning Watch »,« Veille du matin » d'Ellen White, ainsi que ses apports aux 7 volumes des « Seventh-day Adventist Bible Commentary », commentaires bibliques adventistes. Dans certains cas, le matériel au départ paru pour un usage précis, parfois limité par sa nature, fut ensuite employé dans des œuvres courantes. C'est le cas du manuscrit numéro 19 sollicité par G. L. Schuller et utilisé plus tard dans le livre « Évangéliser » en est un exemple. À la fin de chaque chapitre sera indiqué qui a demandé chaque manuscrit ou groupe de manuscrits et, en cas de source actuellement disponible, le titre des ouvrages seront donnés. Généralement, ceci explique la raison pour laquelle des documents semblent être non publiés ou en dehors du système. Dans très peu de cas, le matériel considéré auquel avait été attribué un numéro, pour une raison, n'a pas été publié et le numéro demeure disponible. Nous sommes heureux de mettre à présent à disposition un large segment de ce matériel qui, pour une raison ou autre, a été mis de côté lors de la production des ouvrages courants d'Ellen White. Nous espérons sincèrement que les conseils, les instructions et les informations de ce tome apporteront encouragement et bénédiction à chaque lecteur. Les dépositaires du patrimoine White.